Europe On Air avec les centres Europe Direct.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Europe en Air, l'émission de vos centres Europe Direct en Lorraine, Christelle et Citoyens et Territoires. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un anniversaire et de ses conséquences. En effet, ce mois-ci, c'est les 60 ans du traité de Rome et il va introduire aussi ce que va devenir l'Europe d'ici 10 ans. Quel est son avenir? Donc ce mois-ci, effectivement, nous fêtons les 60 ans du traité de Rome. Il a été signé sur la colline du Capitole, cette colline millénaire de Rome, le 25 mars 1957. Ce mois-ci, nous fêtons donc un événement historique qui a marqué l'Europe de 70 ans de paix.
Et en quoi cet anniversaire est-il symbolique?
Alors il faut d'abord expliquer pourquoi il marque un tournant dans l'histoire du continent. Quel est d'abord son but? Le traité instituant la Communauté économique européenne, c'est son vrai nom, contient les règles essentielles au fonctionnement du marché commun dans lequel les marchandises, les biens circulent librement. Il pose également les bases de politiques communes qui seront développées par la suite. Je vais citer le préambule de ce traité qui rappelle les fondements et le but du projet européen. Déterminé à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, décidé à assurer par une action commune les progrès économiques et sociaux de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, assignant pour but essentiel à leur effort l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple, reconnaissant que l'élimination des obstacles existants appelle à une action concrète en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, soucieux de renforcer l'unité de leur économie et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés, désireux de contribuer grâce à une politique commerciale commune à la suppression progressive des restrictions aux échanges commerciaux, entendant confirmer la solidarité qui lie l'Europe.
L'article 2 résume bien le but recherché. La communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté. Une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit. Passé ce moment un peu juridique, il est important de rappeler cependant le sens des valeurs du projet européen, la paix bien sûr, mais aussi le développement du continent, la mise en place d'un espace commun à tous les Européens qui deviendra par la suite le marché unique. Il faut se rappeler du contexte, l'Europe n'est sortie de la guerre qu'un peu plus de 10 ans auparavant, les animosités entre les peuples restent fortes, l'Europe n'a pas fini d'être reconstruite. La menace soviétique est oppressante, le rideau de fer est tombé sur l'Europe centrale et l'insurrection de Budapest en Hongrie d'octobre 56 est réprimée par le sang, par les armées soviétiques et force les peuples européens à travailler ensemble. Alors pourquoi le traité de Rome est-il un traité important pour l'Europe? Il n'est pas le premier traité étant à réconcilier les États membres de l'Europe.
Oui, en effet, avant lui, il y a le traité de Rome qui institue le Conseil de l'Europe, cette institution qui n'est pas de l'Union européenne, qui est à Strasbourg. Ce traité de Londres, il date de 1949. Il y a aussi le traité de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est lancé le 9 mai 1950 par Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Mais le traité de Rome, c'est celui quand même qui pose les bases les plus solides de la construction européenne. Il institue la Communauté européenne qui évoluera peu ou prou jusqu'au traité de Maastricht, dont on fête d'ailleurs les 25 ans cette année, où la communauté évolue alors en Union européenne, marquant encore un pas dans une intégration politique plus avancée. Ce qui se fait sa force, c'est d'abord ses accomplissements. C'est la mise en place d'une union douanière et d'un marché commun qui a permis de faire de l'Europe la première puissance commerciale. C'est aussi la liberté de circulation des travailleurs qui deviendra ensuite la liberté de circulation des citoyens dans leur globalité. C'est également la mise en place du Fonds social européen avec ce traité de Rome qui notamment institue des formations pour les chômeurs pour retrouver un emploi. C'est ensuite la PAC, la politique agricole commune, qui aujourd'hui, même si les agriculteurs n'ont pas forcément une vie évidente, il faut bien l'admettre, a permis quand même la suffisance alimentaire sur le continent européen et la fin des disettes pour la première fois dans les siècles européens. Ce n'est pas rien, faut quand même le souligner. Enfin, et non des moindres, c'est ce traité qui a permis de mettre fin aux guerres définitivement entre États européens. l'anniversaire de ce traité est donc fortement symbolique, surtout qu'il sera fêté justement à Rome par les chefs d'État et de gouvernement le 25 mars prochain, ainsi que par la société civile pro-européenne qui se rassemblera d'ailleurs pour l'occasion aussi pour faire pression sur les chefs d'État. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont, de quoi ils vont discuter à part de célébration de ces chefs d'État et de gouvernement? Ils vont également parler du futur de l'Union européenne et on en reparlera dans un instant juste après la pause musicale. Et puis comme le traité de Rome, cet anniversaire tombe un week-end, eh bien nous vous proposons d'écouter Étienne Dao, Weekend à Rome.
Vous écoutez Fadjet sur 94.2.
Weekend à Rome, tous les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end l'État.
Dans votre émission Europe on Air, ce mois-ci nous parlons d'un anniversaire très important, celui du traité de Rome. Le 25 mars 2017, l'Union européenne célébrera le 60e anniversaire de son texte fondateur, le traité de Rome. À cette occasion, les dirigeants européens ont prévu de se retrouver dans la capitale italienne pour proposer leur vision commune du projet européen, aujourd'hui menacé par de nombreuses crises. Mais alors, de quoi vont-ils parler plus exactement ?
Ils vont notamment parler du livre blanc pour l'avenir de l'Europe en 2025 que la Commission européenne vient d'éditer.
Et qu'est-ce que le livre blanc ?
C'est un élément de prospective permettant à des décideurs de prendre une décision. C'est ça ce qu'on appelle un livre blanc, ça marche en marketing et ça marche aussi en politique. Le mercredi 1er mars, en effet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a présenté devant le Parlement européen ses propositions pour l'avenir de l'Union à 27. On se souvient, la Grande-Bretagne veut quitter l'Union européenne d'ici 2025. Dans la perspective de ce Brexit, et pour tenter de surmonter les blocages persistants qui existent au niveau européen, il a proposé 5 scénarios allant du statu quo à un renforcement des institutions vers un fédéralisme ou en passant par une Europe à plusieurs vitesses. Ce futur de l'Europe, il est donc décrit dans ce livre blanc pour l'avenir de l'Europe.
Qualifié d'acte de naissance d'une Union européenne sans les Britanniques par le président de la Commission européenne, le livre blanc sur l'avenir de la construction européenne a été présenté cette semaine par Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen. 5 propositions de scénarios y figurent, allant d'une Union européenne limitée au marché unique à un grand saut fédéraliste, en passant par une Europe à plusieurs vitesses, comme tu viens de le dire. Ne se prononçant pour aucune des 5 possibilités, la Commission européenne entend avant tout mettre les États membres face à leurs responsabilités dans une Europe en crise. Donc, quelles sont donc les 5 possibilités de scénario pour le futur de l'Europe ?
Le premier scénario, c'est on continue. On pourrait dire keep going and carry on. C'est une proposition de continuer sur le même principe qu'aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses. Cette vision ne tend pas forcément à répondre aux craintes que les citoyens ont pu formuler, notamment les citoyens britanniques. Hein, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont voté contre pour la sortie de l'Union européenne. Ce scénario, il n'est pas forcément... Il n'est pas forcément aimé de tous.
Le second scénario marque le pas sur l'échec de toute intégration politique, business as usual. On s'arrête au marché unique. On fait simplement de l'Union européenne une simple zone commerciale et de libre-échange, s'assurer la fin de toute intégration politique entre États.
Scénario donc plutôt pessimiste. Le scénario 3 présente quelque chose qui est assez novateur de la part de la Commission européenne, c'est ceux qui veulent plus font plus. Il envisage des coopérations renforcées, actant une Europe, alors le mot est un peu compliqué, différenciée. Autrement dit, une Europe à plusieurs vitesses. Chacun irait à la vitesse auquel il souhaiterait. C'est un scénario un peu plus constructif, actant des différences de point de vue entre les différents États du nord de l'Europe et du sud, mais aussi de l'ouest et de l'est, qui ont parfois des visions différentes. Et c'est la fin donc d'une construction d'ensemble où chacun avance ensemble vers un renforcement. Mais il permettrait également de laisser des États travailler ensemble et d'aller plus loin sur des questions, notamment par exemple fiscales ou sur des questions de défense, lançant des possibilités par exemple de renforcement de la zone euro ou d'un cœur d'État plus resserré qui pourrait être les États fondateurs qui sont plus intégrés économiquement.
Pour le scénario 4, ce serait plutôt faire moins et plus efficacement. Cette idée pose que l'Europe devrait se concentrer sur un champ restreint de compétences, envisager de recentrer les missions de l'Union européenne à 27 autour des politiques spécifiques, en distinguant mieux les domaines qui doivent relever de la compétence européenne et ceux qui doivent être gérés au niveau national. L'Union européenne réduirait ainsi ses interventions dans les secteurs où son action est perçue comme n'ayant pas de valeur ajoutée et pas de nécessité absolue.
Reste le scénario 5, le plus optimiste, faire beaucoup plus ensemble. Ce scénario optimiste où chaque État serait prêt à travailler pour l'ensemble européen, mais ça voudrait dire mettre en place une démocratie des démocraties, une forme que on pourrait décrire comme fédéraliste. D'ailleurs, dans ce scénario-là, on puise dans l'idée du manifeste de Van Totene, qui est le manifeste des fédéralistes. Il prévoit de renforcer les compétences et les ressources de l'Union européenne, par exemple en termes de protection contre le changement climatique, de développement durable et de défense. On verra donc le 25 mars prochain la forme que l'Europe prendra pour le futur. La Commission a dessiné des futurs possibles. C'est maintenant au tour des États membres de se saisir de leur destin en tant que nation et en tant que civilisation européenne. On aura probablement l'occasion d'en reparler le mois prochain. Merci à tous, c'était votre chronique Europe en Air avec vos Centres Europe Direct. À très bientôt.
Europe on Air avec les Centres Europe Direct.
Une émission réalisée par Christelle et Citoyens et Territoires.
Pour plus d'informations sur nos structures, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Radio Fadjet, www.fadjet.net.